De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucie Dale Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On est de retour et cette fois on s'entretient avec les gens du comité des usagers du réseau local de santé de Pierre de Sorel, un nom bien pompeux pour ce que ça, pas, je parle pas de votre comité mais pour le réseau, pour ce que c'est devenu dans les faits, dans le pouvoir décisionnel. Mais ça, c'est un autre dossier. On va plutôt parler de celui pour lequel vous êtes ici, messieurs, c'est-à-dire la violence faite aux aux personnes âgées, qui compte quand même parmi un bon nombre dans vos usagers, j'imagine. Oui. Alors, d'où ça vient? Premièrement, quel est le rôle que vous jouez auprès des usagers? Et qu'est-ce que cette problématique-là vient faire, comment elle vous préoccupe?
D'abord, bonjour. Je dois vous dire que le mandat du comité des usagers, c'est de renseigner les usagers quant à leurs droits et leurs obligations. C'est promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers, évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus, défendre les droits et les intérêts des usagers, parce que les usagers ont des droits. Il y a 12 droits qui sont prévus à la loi. Et on doit aussi accompagner et assister sur demande un usager lors de toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter plainte. Alors ça nous a amené notre mandat à préparer une soirée d'information qui se nomme « Comment contrer les abus envers les personnes âgées ». Et pour vous en parler plus longuement, je vais passer la parole à M. Morvan, parce que c'est lui qui a organisé la soirée en majorité. Il sait plus ce qui va se passer durant cette soirée-là.
Mais j'aimerais savoir pourquoi on a choisi cette problématique-là. Monsieur Morvan, est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Oui. Alors, du comité d'usagers, il y a toujours quelqu'un qui est référé au comité bioéthique. Alors, je me suis retrouvé sur ce comité-là et il y avait une problématique au niveau de certaines résidences sur notre territoire en particulier où il y avait un genre d'abus de toutes les sortes. Des abus, ça peut être psychologique, physique, sexuel, mettez-en, il y en a.
Vous parlez de résidences publiques?
Oui. Non, pas nécessairement. Les publics, il faut différencier. Il y a des résidences privées où le système de santé, je veux dire, l'hôpital n'a pas accès.
Parce qu'on parle, quand on parle du réseau, justement, local de santé, ça regroupe plusieurs établissements, ça, là.
Oui. En fait, si on parle local ici, vous avez l'hôpital et on a les trois centres d'hébergement, soit celui de Tracy, celui de Giardson-Parenteau et le Shell, Sainte-Élisabeth-la-France. Alors, ces trois-là sont dépendants de l'hôpital. Il y a des ressources intermédiaires aussi pour les gens qui sont moins frappés par la maladie, si on veut, qui sont encore un peu autonomes. Il y a des résidences intermédiaires où l'hôpital a aussi son mot à dire. Et par contre, il y a beaucoup de résidences privées où l'hôpital n'a pas accès, je veux dire, légalement, là. Les gens sont chez eux, font ce qu'ils veulent, bien sûr. Il y a toujours le CLSC qui s'y rend. Et à ce moment-là, au comité d'éthique, à un moment donné, on a eu une problématique comme quoi il y avait des abus qui se passaient de façon générale, un peu partout. Là.
On a vu dans l'actualité nationale des cas assez frappants de vol ou de maltraitance.
Exactement.
Simplement de négligence, quelquefois aussi.
Oui.
C'est une forme de violence que de ne pas donner les soins requis à des personnes.
Absolument. Puis ça frappe une partie de la communauté qui est plus vulnérable de la société, finalement, parce que ces gens-là sont un peu démunis au sport. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au comité d'éthique, comme les moyens étaient limités, je me suis dit, peut-être qu'en amenant ça au comité d'usagers, où c'est vraiment, comme Daniel vient de le dire, notre rôle d'aller au battre, si on veut, là, excusez le terme.
Allez vous battre au front.
Là, c'est ça. Alors, c'est de là que c'est parti. Puis à ce moment-là, en collaboration étroite avec le comité d'éthique, on a monté l'idée d'avoir une chose comme celle-là. Et ça regroupe, finalement, on a envoyé, si ça donne une idée, on a envoyé des invitations à 18 communautés de la région, 18 organismes communautaires. On a envoyé 30 invitations à des résidences privées. Et on a un 300 lettres pour les répondants des centres d'hébergement, parce qu'on sait que ces personnes-là ne peuvent pas, finalement, logiquement, répondre.
Alors, donc, votre sujet est bien choisi. Il y a une belle réponse. Là. Les gens attendaient ça, si on peut dire.
À date, disons que on ne prend plus de personnes, si on veut. Mais on a quand même 243 personnes ce matin qui vont être là.
Ouais, c'est bon.
Jeudi soir.
Qui en est? On avait prévu 200 personnes au début. On a été obligé de défoncer, mais là, on ne peut vraiment plus, à cause de la capacité de la salle, en accepter, malheureusement.
Hein, qui anime, anime cette conférence-là?
C'est Mme Lessard qui est une habituée de ces genres de panels-là. Elle a contacté, on s'est donné quatre conférenciers. Il y a une conférencière c'est des conférencières. Alors, il y a Mme Lucie Jacob de notre localité ici, qui est notaire et qui va nous parler évidemment des dégâts qui se produisent avec les mandats d'inaptitude, puis les enfants qui jouent un peu avec les testaments, ces choses-là. On a une personne de la Sûreté du Québec qui va nous indiquer comment on dépose une plainte à la Sûreté, comment la rendre au bout, de quelle façon. Est-ce que la personne qui est abusée peut faire sa déclaration? Peut, mais rares sont ceux qui le font. Maintenant, est-ce que les gens de la ressource où elle demeure peuvent le faire à sa place? Ouais. Puis, on va-tu arriver au même résultat? On a la Sûreté. On a Mme Doré, qui est la commissaire aux plaintes pour la région de Montérégie-Est, qui va nous donner encore des bons tuyaux. Et le dernier, c'est Mélanie Massé, des caisses populaires. Alors, ce côté-là, c'est du côté financier.
Oui, parce qu'il y a beaucoup. De risques d'abus de ce côté-là. C'est souvent le nerf de la guerre. C'est souvent, on tasse grand-maman, grand-papa ou à la résidence, puis on s'occupe, on veut gérer leurs affaires.
Oui, exactement.
Quand on a des plaintes concrètes,
oui.
Qui s'en occupe après? Là? Qui relève cette plainte-là puis tente un règlement quelconque?
Ben, les personnes ont deux choix. Ils peuvent aller directement au commissaire aux plaintes. Le numéro de téléphone est sur notre dépliant qu'on va donner à la salle. Ouais. Et aussi, ils peuvent communiquer avec le comité des usagers où nous, on va, comme on dit, ça fait partie de notre mandat, accompagner et assister. On va accompagner la personne dans la rédaction de sa plainte et l'envoyer aux personnes concernées, à fin de compte,
pour que
ça aille plus loin. Mais ça peut aller jusqu'au commissaire. Et si on n'est pas d'accord avec ce que le commissaire a dit, ben ça peut aller encore plus loin.
Moi, j'aimerais peut-être juste rajouter une chose, c'est que le comité d'usagers va accompagner seulement. On ne peut pas faire la plainte, on ne peut pas agir pour la patiente, pour le résident. Alors seulement, comme Daniel disait, on va les accompagner, on va leur donner des numéros de téléphone, on va leur rendre la chose facile, mais par contre, on ne fait pas la déclaration de nous autres mêmes.
OK. Si vous avez une plainte d'un usager qui voudrait utiliser un bronchoscope, puis ça prend trop de temps avant de pouvoir profiter de l'équipement, comment vous disposez de cette plainte-là?
Ça, c'est la question de santé, monsieur.
Ça, c'est une bonne chose parce que le bronchoscope, c'est sûr que nous, le comité des usagers, ça nous a touché et ça nous a touché parce qu'on est là pour protéger les droits des usagers et ça, on pense que c'est un droit des usagers. Puis là-dessus, on est allé vers des articles de la loi qui dit qu'il faut rendre accessibles les services de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes. Ça nous dit aussi, cette loi-là, qu'il faut tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socioculturelles, ethnoculturelles, j'ai de la misère avec ce mot-là, et socio-économiques de la région. Et il faut que les services soient bien donnés. Parce que le gouvernement, ce qu'il pense des fois, ou ce qu'il dit, on va couper là, on va faire ça, on va envoyer les services ailleurs, mais il oublie que l'usager, lui, pour se déplacer, par exemple, on va dire Saint-Hyacinthe, parce que c'est eux qui avaient le bronchoscope, il y a des frais pour ça.
Ben oui.
C'est pas tout le monde qui a une voiture. On n'a pas, nous, de transport en commun pour se rendre là. Non. Alors, il y en a qui peuvent défrayer jusqu'à 150 $ pour aller passer un test là-bas. Et on est la région la plus touchée par les cancers du poumon ici. Alors, pourquoi ce ne serait pas nous qui aurait cet appareil-là? Là, on l'a, on est heureux.
Ah oui. Mais ça a été un débat inutile, avouons-le, là, qui n'aurait pas dû avoir à se faire.
Ça a été un débat politique.
Ouais.
Peut-être que géographiquement, le ministère n'était pas au courant de la situation géographique de Sorel par rapport à Saint-Hyacinthe ou par rapport Des fois, on ne veut pas le voir.
Oui, c'est plus
vous
ça.
Vous leur accordez, en tout cas, ouais. Une belle naïveté que je ne leur connais pas.
Est-ce que ça nous a donné une belle leçon de mobilisation, cette histoire-là? Puis, on se doute que la centralisation des services au niveau de la santé, que ce soit un phénomène qui s'accentue. Est-ce que le comité des usagers va rester vigilant par rapport à la perte de ressources qu'on pourrait vivre?
C'est le principal mandat du comité des usagers, s'assurer que les usagers ont tous les outils nécessaires pour être en santé. Ça fait vraiment partie de notre mandat, ça part de là.
Ben, je pense que la triste réalité, c'est ça, c'est qu'on doit maintenant surveiller de très près en tant que région parce que les ressources nous échappent.
C'est qu'on est peut-être un hôpital qui est plus petit que Pierre Boucher ou Saint-Hyacinthe. Alors, faut vraiment mettre nos culottes, nos bottes, puis y voir, parce qu'on va garder nos acquis.
Alors, peut-être que physiquement, on est plus petit. Peut-être que physiquement, on dessert moins de personnes. Mais on dessert un grand territoire, par exemple. Le prochain hôpital est à Trois-Rivières. D'importance, c'est à Trois-Rivières. Parce que Nicolette, parlons plus de Nicolette, là, parce que Nicolette est en train de tout perdre, là, eux autres, ils ont pas réagi assez vite. Ou je sais pas, je veux pas jeter la pierre. On a parlé à la directrice, il y a quelques temps, puis ils sont démunis, là, ils sont en train de tout perdre.
En fait, il ne faut pas se leurrer. Toutes les régions vont avoir un combat à faire, peu importe la région, qu'elle soit petite. Même les grosses ont du travail à faire aussi.
Je sais que les gens de Haute-Mauricie ou les gens de Shawinigan, grand-mère, vivent la même problématique.
Donc, un comité des usagers réveillé, c'est un bon atout pour le milieu.
C'est un très bon atout pour le milieu, et je dois vous dire que, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, le ministère y croit énormément au comité des usagers. D'ailleurs, ils ne veulent pas que ça parte, ils ne veulent pas que ça s'en aille, ils veulent que ça fonctionne. Puis le comité des usagers, il faut parler aussi qu'il y a les comités de résidents dans nos centres d'hébergement qui sont aussi importants. Ouais. Eux nous donnent le pouls de ce qui se passe dans les résidences, alors on peut agir. C'est une façon de parler, agir, parce qu'on n'a aucun pouvoir de décision, mais on peut au moins amener la problématique où il faut. Ouais.
Messieurs, merci beaucoup. Puis on va souhaiter que les gens soient très nombreux à répondre à votre invitation la semaine prochaine. C'est déjà pas mal fait. Ouais. Alors merci de votre participation. Merci surtout de votre vigilance auprès de la population. C'est un grand service que vous leur rendez. Monsieur Ali, vous voulez ajouter quelque chose?
J'aimerais aussi, par le fait même, remercier trois de nos commanditaires, comme la ville de Sorel-Tracy qui a aidé à cette soirée-là, Desjardins et Pierre de Sorel qui a aidé à cette soirée-là, ainsi que la fondation du CHSLD. Merci beaucoup.
Merci, on s'arrête là-dessus. Le temps d'une pause. De l'autre côté, Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours, mais aussi directeur général de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy. Il va revenir sur le succès quand même annoncé, très important, du tout premier salon des affaires de Sorel-Tracy. Puis on va y poser une couple de questions également aussi sur les récentes décisions de certaines municipalités avec leurs services incendie, etc. Alors, on y revient après ceci.